Bonjour et bienvenue au coin de la table, la chronique Proxy Jeux qui démonte le jeu de rôle. Et donc cette fois-ci, nous allons parler de
Du jeu et de l'humour.
l'humour, tout à fait. Effet exceptionnel, nous ne sommes que deux.
Et oui, car comme vous pouvez le constater à l'absence de voix, Guylaine n'est pas dans l'enregistrement aujourd'hui pour une raison d'extinction de voix. C'est dommage parce que Guylaine aurait eu beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de transmettre son propos. Voilà.
Voilà. Donc, voilà, le jeu et l'humour. Alors, moi, il y a un truc que je peux commencer, c'est faire une citation d'un philosophe. Donc, on va commencer sur du sérieux dans l'humour. Voilà.
Très bien, les citations de philosophes pour commencer des podcasts, c'est
Sur,
parfait.
ouais, parfait pour le thème. Donc, c'est Bergson, ce cher Bergson, qui nous dit. Alors, c'est pas sur l'humour, c'est sur le comique. Qui nous dit le comique, c'est de la mécanique plaquée sur le vivant.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire du comique, on plaque des comportements un peu moins fluides, un peu moins flexibles et vivants sur un personnage pour lui donner un comportement un peu plus mécanique, un peu plus peut-être stéréotypique. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, Bergson a certainement jamais joué au jeu de rôle.
Probable.
Je pense qu'on peut l'affirmer. Mais on peut détourner sa citation, dire effectivement le jeu de rôle. C'est des mécaniques, le vivant c'est les joueurs, et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se marre tous, on s'est tous marrés autour d'une fois sur la table. Ou d'ailleurs, je dis le jeu de rôle, mais le jeu en général, on s'est tous marrés pour un truc. La première chose, c'est quand une situation devient tellement improbable ou tellement bizarre qu'elle se contredit avec le thème du jeu.
Ouais, c'est effectivement le comique de situation qui d'ailleurs c'est assez intéressant parce que l'humour et le fun, le rire ne vient pas forcément des blagues en fait. Ça vient effectivement parfois d'une situation qui est décalée. Bon, moi, ça m'est arrivé d'avoir notamment des grandes crises de rire sur des jeux de société, hein, pour parler un petit peu de pion, de jeux de société qui ne sont pas nécessairement des jeux drôles ou des jeux d'ambiance ou des jeux conçus comme tels. Autant on peut concevoir assez facilement des crises de rire sur des jeux type des jeux d'ambiance, façon les jeux de Roberto Fraga, la danse des œufs, ou des jeux rapides où on a une certaine frénésie. Autant avoir une crise de rire sur des jeux comme Horreur à Arkham ou Starcraft, le jeu de plateau, sont des choses qui me sont déjà arrivées à titre personnel et qui sont déjà arrivées, je pense, à un certain nombre de
Ouais,
gens.
tout le monde,
Tout le monde.
tout le monde s'est marré à pandémie quand éclosion en chaîne, oh
Ah oui, bah oui, bah,
beaucoup.
ce rire n'était pas simulé,
Et d'ailleurs,
je me rappelle
puisqu'on
des
passe
choses.
sur d'Horror Arkham et de pandémie, moi j'ai pas mal de souvenirs aussi sur le Pandémie Cthulhu.
Ouais,
Quand tu tires
justement.
la quatrième fois de la partie, la carte café, et tu dis bon, les cultistes vont tous au café, enfin, tu peux forcément, tu sors des blagues sur des marques de café, tu payes trop cher, des trucs comme ça. Mais voilà, la situation est censée être sérieuse dans le thème du jeu.
Ouais, bah c'est vrai que finalement, en pandémie, en prenant cet exemple, quand on a une éclosion, c'est-à-dire qu'on a une maladie, donc pour reprendre le mécanisme de pandémie, c'est donc une maladie, on doit soigner une maladie mondiale, on est en coopération. Si jamais on a une éclosion, c'est qu'une maladie est en train de se répandre dans plein de villes adjacentes à une ville qui a été contaminée. Généralement, ça se passe très mal pour les joueurs parce qu'on a un marqueur de fin du jeu qui avance, puis on a plus de maladies à gérer, donc c'est une situation qui est tragique. Et en termes d'histoire, de narration, on est quand même en train de dire qu'il y a une maladie qui est en train de décimer plus de la population mondiale de façon incontrôlée et que peut-être l'humanité court à sa perte. Et ça nous fait beaucoup rire, ça nous fait beaucoup marex. Côté ah non, encore une éclosion, ce rire un peu nerveux de la situation qui est incontrôlée. Parce que je pense que l'humour, ça peut aussi être considéré comme une perte de contrôle momentanée, une situation qui devait bien se passer, un plan sans accroc, et l'accroc, justement, génère de l'imprévu, et l'imprévu génère du rire.
Ouais, c'est un peu le côté losing is fun. Le fait que perdre des fois, c'est ce qui va l'échec en fait, c'est ce qui va causer du rire, de l'humour sur la table. Moi j'ai un joueur d'ailleurs peut-être qu'il se reconnaîtra. John, si tu nous écoutes, je crois que c'est statistique avec un des 20, c'est doit être à peu près 90% de résultats en toutes 5.
Et oui.
Et il change de dé tout le temps. Et donc du coup, ça, moi j'aime beaucoup, en tant que maître de jeu, ça apporte beaucoup de choses autour de la table,
Ouais.
beaucoup de rires, beaucoup de situations, beaucoup d'évolutions. Et voilà, il y a des jeux qui jouent carrément là-dessus. sur les situations peuvent engendrer l'échec. Ne serait-ce que la plupart des jeux depuis Donjons et Dragons, l'échec critique, c'est une
Ouais.
blague en soi.
Chaque critique, ou quand on voit le D20 rouler sur la table et qu'on voit que ça tombe inéluctablement sur le 1, bah ouais, on sait que ça a mal se passer. On sait que le maître du jeu va décrire une situation qui, par sa, son, 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 sa, la terreur que ça va engendrer et par l'échec complet, va donner un côté fun autour de la table, un peu comme, vous savez, ce plaisir coupable. Non, ne mentez pas, vous avez tous rigolé devant une vidéo de vidéo gag où il y a des gens
Ouais.
qui tombent sur une savonnette et ils se font mal, et du coup, ça nous fait beaucoup rire. Et
Ouais,
oui,
ouais.
on est tous coupables d'avoir rigolé à ça peut-être.
Mais même, du coup, ouais, en fait, on a, même sur le, quand tu fais un échec critique en jeu de rôle, t'as tendance à exagérer l'échec. Parce que c'est juste censé
Ouais.
être un échec automatique ou un truc comme ça. Mais c'est le moment où, voilà, Conan glisse sur une peau de banane et, ou alors au moment où il va s'apprêter à frapper l'homme serpent, la tête de sa hache s'envole et tombe sur le voleur derrière.
Ouais.
Et
Ce genre de truc absurde et improbable qui n'arrive pas en fait, et
qui
qui
n'arriveront jamais dans un film.
C'est ça, j'imagine. Et en fait, ce que tu dis là sur les gens qui ont cette espèce de malédiction du dé qui ne marche pas, moi ça me fait penser à un thème, donc Guylaine, si tu nous écoutes, un thème qui a été proposé par Guylaine, qui est l'humour méta en fait. L'humour autour de la table de situations qui n'ont rien de drôle, même finalement, entre guillemets, objectivement, mais qui vont provoquer, de par la création d'un univers commun entre les joueurs, un rire complice, un rire qui appartient à l'univers du joueur. Moi, c'est vrai que, pareil, toujours pour reprendre des exemples de jeux très sérieux, ben, c'est vrai qu'on a sur Pandémie, par exemple, justement, en tout cas sur Pandémie Legacy, et sans trop dévoiler de l'intrigue de ce jeu, on a une ville où ça s'est très mal passé pour nous, qui est la ville de Lagos, qui nous a donné des situations absolument terribles et terrifiantes, et c'est devenu notre blague dans notre groupe d'amis de parler de Lagos, quoi, juste Lagos, et ça nous fait marrer comme des fous, parce qu'on avait ce référentiel commun qui s'est créé, qui nous a permis de rire de ces situations improbables, quoi.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est que en fait, ça devient drôle parce que ça s'approprie aux joueurs. Ça fait vraiment partie de votre groupe. Et c'est drôle aussi parce que du coup, c'est quelque chose, c'est un événement du hasard quelque part. Ou ça peut être, c'est comme en jeu de rôle, quand des fois, il y a les inside jokes de rôlistes où on fait des blagues sur tel personnage, sur tel PNJ, sur tel joueur ou tel truc, en fait, c'est même si c'est quelque chose de scénarisé, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à ces joueurs. Et c'est pour ça que c'est drôle, parce que si on décrit la même situation, par exemple, dans le cadre d'un film que tout le monde a vu, ça va pas forcément être drôle pour tout le monde.
Eh oui, bah ça, on a aussi tous ces exemples peut-être de citations de films ou de séries un peu cultes ou connues dans un groupe d'amis. Au moins, en ce qui me concerne, j'ai jamais vraiment regardé la série Kaamelott. Oui, je laisse le moment de silence, de stupéfaction. Et
Tu peux.
tout autour de moi, j'entends des trucs, des c'est pas faux, des Arthur le cuillère, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Et pour le coup, ça crée un univers propre, quoi, qui appartient à mes amis, mais pas à moi.
C'est un peu le côté aussi, tu as eu deux grands drames dans la vie des MJ, c'était la sortie de Nullbuck et la sortie de Kaamelott, parce que tu pouvais plus faire une partie sans que tu aies des citations de l'un ou de l'autre en permanence. Et quand tu essayes un peu de mettre de pathos ou de gravitas dans ton truc, que tu as ton grand vilain qui s'apprête à détruire le monde, qui débarque, qui commence à faire son discours, tu as les joueurs qui font. Quand les personnages qui ont l'air horrifiés, et t'en as un qui fait, c'est pas faux.
Et là, il y a tout qui bascule, quoi. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un côté, justement, c'est un autre potentiel de l'humour. C'est l'humour qui permet de désamorcer des situations qui pourraient être vécues comme étant finalement trop graves ou trop dramatiques, soit par les personnages, soit par les joueurs. Toujours cette frontière. On se dit, bah voilà, soit des gens qui vont dire on est plutôt là pour s'amuser et du coup avoir quelque chose de grave n'est pas assumé, ou alors cette espèce de malaise et cette gêne par rapport à une situation qui peut être trop intense et trop demandante d'un point de vue émotionnel et qui va être quelque part désamorcée par cette petite blague à la con dont l'univers se serait passé, mais qui permet quelque part malgré tout de désamorcer une situation trop engageante en fait pour les joueurs.
Ça peut peut-être même devenir une arme en fait pour les joueurs qui s'ennuient à une table. Un joueur qui s'emmerde à une table, souvent la réaction, ça va être son personnage, il va, bon, soit il va s'effacer, dans ce cas-là, bon, limite, il pose pas de problème. Soit il va, son personnage va, il va faire adopter justement à son personnage un comportement mécanique, débile, hyper basique, caricatural, de base et souvent suicidaire. C'est tout le moment où on se fait, c'est toujours le moment où on s'est un peu emmerdé à une partie de Cthulhu ou de donjon. On dit bon, est-ce que la porte est piégée? Je la défonce. Rien à battre. J'en ai marre. Je veux rentrer chez moi. On va buter ce dragon. Je la défonce à coups de botte et puis on rentre, tu vois. Et d'abord, bah, tu te prends une boule de feu dans la tronche. C'était piégé. Derrière, t'as une armée de squelettes. Enfin bref. Voilà. Et ouais, c'est ça fait rire tout le monde à la table, sauf le maître de jeu en général, ou alors sauf s'il avait prévu le coup. Et ce qui reste rare, c'est très balèze quoi. Mais voilà, t'as ce côté tu désamorces, tu décompresses, t'en as un peu marre et tu balances le truc. Bon, du coup, après, toute l'ambiance est foutue.
Ouais, bah c'est il faut la reconstruire quoi. En tout cas, on passe sur autre chose. Hein. On passe sur autre chose. Enfin, sauf pour le coup si on est sur des jeux qui ont été spécifiquement conçus cette fois hein, pour être des jeux qui provoquent plus facilement des situations humoristiques. On reste sur le comique de situation, donc c'est vrai que pour l'instant on parle de l'humour comme situation comique, mais ça reste quand même quelque chose qui, je pense, nous parle pas mal. Il y a un certain nombre de jeux de rôle dont on a déjà hein, précédemment parlé sur des épisodes précédents, les auditeurs fidèles reconnaîtront certaines citations. Moi, j'ai deux exemples en tête qui sont d'une part le jeu Star Drakkar, donc par Eric Gnedan, qui est un jeu dans lequel on va incarner des vikings de l'espace. Hein. Voilà, tout simplement, donc dans des drakkars spatiaux. On a quelque chose d'absurde, hein, d'assez truculent, d'assez grotesque, qui va très loin finalement dans l'utilisation du cliché du viking, en tout cas du stéréotype guerrier sans cervelle viking tel qu'on peut se le faire avec des grosses haches, sauf que c'est des haches laser. Donc finalement, on a un côté utilisation des codes et réappropriation pour exagérer, donc sur ce comique d'exagération, exagérer certaines traces et qui sont certaines choses, notamment bah voilà, le côté brutal et sanguinaire des vikings, en tout cas de ces vikings-là. Et le jeu est conçu comme tel, même au sein de ses mécanismes. On en parlait dans un autre épisode. Les deux seules caractéristiques des vikings, c'est la brutalité et l'obstination. C'est-à-dire qu'en fait, on peut changer sa brutalité, son obstination. D'ailleurs, on a de quoi changer un truc et l'autre assez facilement. Donc
C'est tous les personnages ont un bourrinomètre.
Oui,
Ouais.
c'est ça. Ça permet en fait de passer leur obstination en brutalité ponctuellement et ensuite de le rebaisser. Enfin,
De
bref,
changer de corps, ouais.
c'est très à la bonne franquette quoi. Finalement, on s'en fiche un peu en hein, quelque part. Et même, enfin, cette mécanique est drôle parce que même le fait de se dire on a ces deux caractéristiques un peu absurdes et de pouvoir les changer, ça n'a pas de sens. C'est assez rigolo et c'est au service en tout cas de créer des situations dans lesquelles on va avoir des vikings qui vont charger contre un ennemi qui vont généralement massacrer ou le contraire. Un humour un peu potache, un peu brutal. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est l'exemple de Toon. Donc Toon qui est un jeu, bon alors voilà, ne serait-ce qu'au nom, vous comprendrez l'idée, hein, qu'elle on va incarner des Toons, donc Toon ambiance qui veut la peau de Roger Rabbit, et vous voyez toute l'idée, hein, et là, pour le coup, on peut même plus parler d'exagération, tout va au-delà. Déjà les Toons sont quasiment invincibles, à l'exception de la fameuse trompette qui va les tuer. Mais ce qui est finalement assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir se mettre dans des situations qui sont complètement improbables et surtout extrêmement exagérées. Parce que peu importe ce que va faire le Toon, il pourra toujours aller plus loin et pourra toujours faire plus. Et un échec ou une réussite seront finalement dans les deux cas très drôles parce que la manière d'utilisation va être grandiose et va être aussi un exercice de style pour le MJ de décrire des choses extraordinaires qui vont se passer et aux joueurs de rire de cette interprétation scénaristique du MJ qui va souvent être très drôle.
Ouais, Toon, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que là on est clairement basé sur un univers. C'est un jeu qui est super intéressant parce que c'est un univers qui est de base complètement délirant
Ouais.
parce que c'est basé voilà, sur les dessins animés, tout ça, et en plus de ça, on a le système de règles, plus ou moins, qui prend ça en compte, je crois, non?
Dans tous les éléments, c'est-à-dire qu'on a le droit au début entre un bonus qui est soit un gizmo, ce qui est une chose qui va se transformer en à peu près ce que tu veux, mais généralement ça se passe mal, ou un trou sans fond. Donc en fait, tu mets un trou, tu te glisses dedans, tu reprends le trou, logique toon, hein.
La classique, ouais.
Et ça permet de te téléporter n'importe où avec plus ou moins de succès. Les caractéristiques aussi sont très simples au D6 et vont être assez peu nombreuses. Et tu définis au début de la partie des némésis et des objectifs qui sont absurdes. Pareil, la némésis, tu peux aller prendre n'importe quoi. Moi, j'avais pris un personnage, sa némésis, c'était juste les fourmis rouges de 4 cm aquatiques qui ont un dard ou quelque chose comme ça, un truc complètement précis et qui n'existe pas, sauf évidemment le MJ qui va dire hey, « Hé, tu tombes sur ça !» Et j'avais pris l'eau aussi, genre mon personnage était phobique de l'eau, quoi. Donc, dès qu'il y avait de l'eau, il paniquait complètement. Ah, ça crée pas mal de situations un peu absurdes.
Ouais. Dans le genre, j'ai joué à Made RPG.
Made RPG.
Made RPG, donc un jeu où on joue des soubrettes qui doivent servir un maître. Un des éléments intéressants du jeu, c'est que c'est un jeu aléatoire. C'est-à-dire que les personnages sont tirés aléatoirement, les scénarios de base sont tirés aléatoirement. Du coup, on se retrouve avec des personnages complètement dingues. Moi, par exemple, j'étais une maid. Donc c'est inspiré des trucs... des maids japonaises, enfin des animés surtout, où voilà, il y a un maître à servir, il y a des soubrettes, et souvent ça devient des soubrettes de combat ou des trucs complètement différents. Et donc moi j'avais une maid fée, pyromane.
Très bien.
Et elle avait, donc dans ce jeu t'as un système de, tu peux pas mourir par contre, t'as ce qu'on appelle un stress explosion. Si jamais tu prends trop de dégâts, ça crée une réaction, ça peut être aussi un pouvoir.
Mmh.
Et moi, son pouvoir, sa stress explosion, c'était de s'enfuir.
D'accord.
Donc en gros, j'avais une fée pyromane qui s'enfuyait en cas de en cas de danger. C'était n'importe quoi, voilà. Et on avait un maître. Le maître, son âge est tiré au hasard, c'est pareil, donc le nôtre il avait 4 ans, donc il fallait qu'on lui fasse prendre son bain, et en même temps il y avait des attaques de zombies, on s'est retrouvé catapulté dans un monde médiéval fantastique, enfin, le délire total, mais ça reste vraiment sympa. Pour l'interprétation de personnage, par contre, encore une fois, je vais citer Bimbo.
Le point voilà. Bimbo.
Parce que je sais que je le cite beaucoup, mais je sais pas, c'est l'un des rares jeux en édition française que je trouve vraiment sympa et à prendre un peu des trucs et puis à sortir vachement du cadre. Tu parlais de Toon, de la création de personnages et des attributions, Nemesis, tout ça, tu retrouves ça dans Bimbo aussi. Hein, quand tu crées ton personnage, tu dois prendre un caprice de star. Du coup, genre, je refuse de porter de la fourrure, j'aime pas la violence. Je veux qu'il y ait au moins 3 scènes où on me voit passer un coup de fil sur mon iPhone. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les sponsors. On a des sponsors, donc on doit faire des placements produits dans les films. Et on doit aussi caser des clichés. Les clichés font gagner des points de Star System. Enfin, d'accord. En fait, ce qui est assez cool, c'est que ça pousse les joueurs du coup à faire un petit peu du bordel.
Ouais.
Et en fait, à enrichir aussi les scènes en même temps. Parce que du coup, tu es là, oui, alors. Je suis sur le bateau et je me sors une canette de Perrier.
Ah ouais, donc c'est des contraintes finalement qui vont pousser encore une fois, comme d'hab, à la créativité, quoi. C'est
ouais.
Voilà, soudain, tu vas aller chercher dans ta fiche le truc absurde qui va rajouter, enfin le truc en tout cas hors propos,
exactement.
Qui va rajouter une saveur supplémentaire à la scène. Quoi.
Et comme ouais, puisque en plus comme les joueurs sont, enfin ils sont pas obligés de les caser, mais comme ça leur rapporte des points, il y a ce côté compétitif, voilà, qui fait que on avait vu dans Bimbo. C'est un jeu qui est bourré d'humour parce que tu as ce côté où tu peux interrompre les joueurs. Les joueurs peuvent s'interrompre entre eux, ou ils peuvent même interrompre le MJ pour dire non, coupé, on la refait. Et ils doivent faire un jeu de sexy pour aller voir la prod, pour voir si la prod accepte qu'on fasse la scène. Donc c'est un peu bizarroïde. Il y a beaucoup de choses sous-entendues et ça reste assez cool. Je sais qu'il y a un autre truc, voilà, c'est pareil, ouais, je parlais de caser des clichés.
Ouais.
Tout le monde connaît les clichés du cinéma, hein, qui ont été parodiés dans plein de films, que ce soit Scary Movie, Hot Shot, tout ça.
Ouais.
Le moment où Jason Statham perd sa chemise, la fameuse scène de la douche, le fait de perdre ses clés au plus mauvais moment, ce genre de truc, voilà, tu sais.
Même des répliques cultes, quoi.
Les répliques cultes, l'ascenseur qui met 10 minutes à descendre 2 étages, enfin.
Ouais.
Voilà.
Voilà, la fameuse notion de la gestion du temps. On se dit, mais c'est pas possible.
Ouais,
finalement, je pense que dans cette notion d'humour, hein, quand on va quand on va incarner un personnage, on va avoir ce côté, soit on va chercher le comique, soit on va le générer avec spontanéité. Je pense qu'on touche en une dichotomie qui est un peu celle au niveau du, pour faire un peu le point théâtre, qui touche peut-être à la différence entre le théâtre, par exemple, type comédie, d'une part, et ce que peut être, d'autre part, le clown, ou certaines notions d'impro, mais disons que, prenons l'exemple du clown qui est encore plus précis. Finalement, le clown, hein, pour nos auditeurs, c'est pas. C'est le clown, en fait, c'est une technique qui n'est pas juste mettre un nez rouge et avoir des chaussures qui font poète-poète. Hein. C'est un peu, beaucoup plus subtil que ça. C'est vraiment incarner. Enfin, déjà, incarner, est-ce que c'est vraiment le bon terme? C'est être vraiment très spontané, dire oui à toutes les situations et vouloir bien faire, exagérer des choses, sans vraiment le vouloir et jouer sur vraiment quelque chose de très, très, très spontané. Ce qui, du coup, devient extrêmement difficile, hein, finalement. Trouver son clown, trouver qui on est, trouver comment être spontané et touchant et en même temps drôle. Sans exagérer, en touchant juste, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un côté. Le clown va faire rire par justement des situations qui vont l'impacter lui, où quelque part il va être ridicule ou il va accepter ce ridicule, et cette acceptation va créer quelque chose. Maintenant, si on prend une comédie classique, si on prend les comédies de Molière, hein, typiquement, si on prend le, je sais pas, l'avare, le comique de l'avare, le moment où on va rire, des moments qui sont extrêmement calibrés, très précis. Donc finalement, la pièce, elle est connue, elle est maîtrisée, le texte, il est rodé, et le rire va venir de quelque chose qui est proposé par les acteurs à une scène, mais sans improvisation. Donc,
c'est la mise en scène, je peux changer aussi complètement le thème et la sensation, enfin l'interprétation du truc.
Oui.
Je me rappelle, j'avais un prof qui nous avait parlé, donc du coup, on avait étudié Macbeth.
Mmh.
Et donc Macbeth, bon, c'est pas super fun comme pièce, c'est pas l'un des trucs, les travaux les plus comiques de Shakespeare. Mais il nous a raconté une mise en scène où, en fait, juste après le meurtre, quand ils sortent de la chambre du roi, en fait, ils sont couverts de la tête aux pieds de sang, mais intégralement, et du coup, ils ont des vêtements qui collent, ils osent pas, et puis ça dégouline de partout, donc du coup, ça devient comique parce que c'est exagéré par rapport au truc.
Ouais, donc là, on est sur de l'exagération. Tu voulais nous parler de paranoïa aussi, je crois, non ?
Oui, exactement. Tout à l'heure, on parlait de l'humour par le décalage entre la situation sérieuse et c'est le décalage un peu entre la situation de jeu et la réalité, ou comment se ressentent les joueurs. Paranoïa, c'est on joue carrément, puisque on est dans le cadre d'un univers dystopique extrêmement grave, où toutes les décisions humaines sont prises par une intelligence artificielle qui bug. Et qui a, c'est un système fasciste extrêmement
hiérarchisé,
où chacun a un grade et l'ordinateur te donne des missions par rapport à ton grade, sauf qu'il y a des contradictions. Il va te dire il faut que tu ailles faire ça, mais tu ne peux utiliser que des outils qui sont supérieurs à ton grade, donc tu n'as pas le droit d'utiliser cet outil parce que cet outil a un grade supérieur au tien, enfin. Et tout en entretenant en plus, du coup, d'où le nom, la paranoïa entre les joueurs qui vont passer leur temps à essayer de se mettre des couteaux dans le dos pour se contenir. Et ce qui est, quelque part, c'était, je pense, l'un des premiers jeux à jouer vraiment là-dessus et aller à contre-pied un peu avec l'idée que le jeu de rôle, c'est de la coopération. Parce que les joueurs ne coopèrent pas par désir, mais par contrainte. En fait, parce que l'ordinateur, le maître de jeu, en fait, les force à travailler ensemble tout en leur disant tu dois faire ça, mais fais gaffe, machin, peut-être qu'il va te tuer, ou peut-être que voilà. Mais par contre, c'est lui qui peut faire ça à ta place parce qu'il a un grade supérieur ou pas, ou machin, ou alors il faut absolument que ça soit fait. Tu dois faire ça, mais c'est quelqu'un de tel grade qui doit le faire, mais c'est des grades qui vont, je crois, de ultraviolet à infrarouge. Donc c'est un système de couleurs, donc tu voulais te souvenir des couleurs magenta,
bleu, ah oui, d'accord, ok.
Enfin bon, ça reste lisible, mais c'est un beau bordel, quoi. Complètement assumé du début à la fin, et ça reste un jeu extrêmement construit. C'est assez amusant parce que j'ai une anecdote sur Paranoïa. J'ai discuté du coup récemment avec des amis de la fac que j'avais pas eu depuis très très longtemps, et puis on commence à parler de forums et d'internet et tout le bordel qu'on peut y trouver, et ils commencent à parler d'un forum où extrêmement bizarre où les gens faisaient des trucs, et en fait on s'est rendu compte que c'était un forum de roleplay paranoïa. Ah. Sauf qu'elle, elle ne connaissait pas paranoïa, elle ne connaissait pas le jeu.
D'accord, ok.
D'accord. Du coup, en voyant le truc, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette communauté de tarés?
D'accord.
Qui sont complètement malsains et qui essayent de se planter, enfin, d'être, qui sont malsains les uns envers les autres, en fait.
D'accord. Ah oui, d'accord. Donc là, d'accord, encore heureux, finalement, que ça ne soit pas quelqu'un qui ait voulu faire une diatribe contre le jeu de rôle et qui se soit dit, ah, j'ai la preuve que les rôlistes sont tous des satanistes.
Voilà, ouais, c'est ça.
D'accord.
Mais, c'est intéressant. Du coup, dans Paranoïa, l'humour passe aussi dans l'acceptation de la situation. Tout le monde sait que ça va être complètement délirant, que c'est une exagération des pires systèmes technocratiques existants, et que ça va aller très très loin.
Ah, c'est vrai qu'il y a une notion qui est assez intéressante à explorer entre l'humour et la frustration. Au final, la frontière peut être assez souvent ténue, quoi. Ou par exemple, c'est vrai que quand on a une situation comique, pour revenir sur de la situation, hein, une situation comique, on reprenait l'échec critique. Bah, l'échec critique, mine de rien, ça peut être extrêmement frustrant pour des joueurs. Des moments où un échec critique, ça nous fait rire, et d'autres où ça va pas du tout nous faire rire, quoi. On va juste se dire ah, et ça va être très triste. Et là, il y a un côté où, si c'est accepté, il y a une acceptation effectivement de ce côté, on se fout des poignards dans le dos, etc. Ça va sûrement donner plus, justement, désamorcer des situations qui autrement auraient pu être extrêmement frustrantes. Et moi, j'avais comme exemple, justement, de contre-exemple, le jeu Les Naufragés du Titanic, un jeu de société. Voilà, qui est un jeu de société de. Je pense que c'est un des jeux de société que je connais où les gens. C'est un jeu fourbe, vraiment très fourbe. Où, c'est des naufragés du Titanic, hein, comme le nom l'indique, et qui doivent essayer de rejoindre la côte. Sauf qu'ils ont aussi envie de récupérer des trucs sur la route, donc des tableaux, etc., pour avoir plus de points. Parce qu'au final, tout le monde gagne ou tout le monde perd, mais il n'y a qu'un seul gagnant final qui est celui qui a le plus de points. Donc il faut arriver à se tirer dans les pattes, mais survivre collectivement. On a un meilleur ami. Et un pire ennemi, donc on veut que notre pire ennemi meure et que notre meilleur ami reste en vie, donc on se combat entre nous. Donc il y a un système d'alliance, un système de cartes cachées, il y a un système de chaînes où en fait celui qui est au début du bateau récupère plus facilement des objets, par contre celui qui est tout à la fin du bateau va décider qui c'est qui va tomber à l'eau ou quoi, parce qu'il y a des malus, enfin bon bref, tout est fait pour que les joueurs se foutent sur la gueule. Ouais. Clairement,
en général, dans les jeux où on se parle le plus, c'est ceux où on se fout le plus sur la tronche.
Bah, celui-là, Le Naufragé Titanic, c'est vrai que c'est un exemple de jeu où clairement j'ai vu vraiment des gens être pris au vif, quoi, être frustrés, être. Moi, je l'ai plus vécu comme un jeu de malaise, quoi. Enfin, c'est un jeu que j'aime beaucoup mécaniquement, que j'aime beaucoup de façon compétitive, mais je sais que quand on va y jouer, il y a potentiellement un risque, en fait, pour...
Que des gens vont se retrouver frustrés.
Ouais,
d'où l'importance de, quand on est dans des jeux comme ça, d'avoir justement cette... dire, attention, le jeu va se dérouler dans tel cadre, et on va faire ça, quoi.
Ouais.
Pour maintenir, parce que l'humour dépend aussi de chaque personne, et ce qui va être une blague pour nous, quelqu'un risque de blesser les autres. Il faut être attentif au public.
Bah, ça me fait penser à Munchkin, où le slogan du jeu, je crois, c'est alors je sais plus quels sont les deux premiers, je crois que c'est bon, à base de tuer le monstre, piller le trésor, et le troisième, c'est trahissez vos amis, quoi.
Ouais.
Le catchphrase du jeu, c'est ça. Ouais. Au moins, on sait où on met les pieds, quoi. On sait que c'est un jeu où on va se tirer des balles. Voilà.
C'est ça. Alors, on a passé rapidement dessus. Mais il me semble que Guylaine avait envie de parler de l'humour méta. Et alors l'humour méta, il y a un truc par exemple, c'est on va reparler un petit peu de Cthulhu, hein, mais tout le monde aujourd'hui, Cthulhu, c'est plus du tout un mystère, en fait.
Oui.
Tout ça, le truc. Et du coup, à chaque fois que tu te lances dans une campagne ou dans une partie de Cthulhu et que le MJ tente de faire des trucs mystérieux, il fait non, mais c'est bon, on a compris, quoi.
Ouais.
On sait, on est dans un port, check, il y a des disparus, check, il y a des mutants bizarres, check, bon, c'est des profonds et.
Ouais.
Un truc, bon, sortez la dynamique, mec.
Ouais, on sait finalement, ça ne surprend plus personne et ça va donner un côté presque lassant, presque comique, voilà. De répétition, et ce qui devait être grave devient finalement anecdotique ou limite ridicule, quoi, en tout cas grotesque.
Complètement, c'est la répétition, c'est trop connu, en fait,
ouais.
On peut plus l'utiliser. À la limite, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux humoristiques qui utilisent des thèmes bien connus, comme justement tout ce qui est le Lovecraftien, enfin, il y a eu le Munchkin Cthulhu,
Ouais.
et tout comme ça. Tout à l'heure, on parlait de Pandémie Cthulhu qui est presque plus. Il est plus drôle que le Pandémie de base, à la limite, parce
Ouais.
que voilà, bon, on a trois cultistes à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils vont à la messe, ah, bah, ils ont fait. Oh merde, ils ont fait un rituel, ah, bah, on a ouvert une porte sur l'enfer, oh, fait chier.
Ouais, quelque chose qui, quand on connaît pas, est très grave et inquiétant. Quand on commence à connaître le truc, il y a plus ce côté. Y a plus, ouais, effectivement, ça devient ce côté humour, quoi. L'humour pour désamorcer un peu. Enfin, non, c'est même plus pour désamorcer, c'est pour. Comme signe que, bon, c'est bon, on sait ce qui va se passer, il n'y a plus de surprise, vas-y, passe, quoi. On peut se
C'est
moquer.
ça. Bon, on a fait un petit tour sympathique de l'humour dans le jeu de rôle et dans les gens en général. Est-ce que tu as une autre dernière chose à dire?
Alors moi j'ai une blague.
Ok, c'est mal parti.
C'est. Vous avez deux poussins sur une table. Et tu veux qu'il n'y en ait plus qu'un. Tu fais quoi? T'en pousses un. On peut pas faire un sujet sur l'humour sans faire une blague.
Alors je pense que l'humour est mort. Donc la prochaine fois on va faire un, je ne sais pas, un sujet sur la peur peut-être.
Ben, je crois, hein. Non, mais on va réfléchir au prochain sujet et on vous donne rendez-vous dans 2 mois pour la prochaine chronique, donc de nouveau à 3, on l'espère.
Ouais, et en attendant, jouez
Jouez
bien.
bien!